With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafut, ravi de vous retrouver pour ce numéro un petit peu spécial. Et oui, l'invité qui est avec nous, je l'ai rencontré il y a 9 ans, que de belles évolutions depuis. Et puis bien sûr, pour présenter cette émission, toujours l'excellent Arnaud Beurdelet. Salut Arnaud.
Salut Raph, et bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci encore de m'accueillir pour Poulain Rafut. Poulain Rafut, vous le savez, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large et en travers. Celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro, partout où vous le souhaitez. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, hein, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou encore Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse nous présenter notre invité du jour, un invité dont tu souhaitais absolument recueillir le témoignage pour plusieurs raisons, et notamment parce que tu le connais depuis maintenant un petit moment.
Oui, Arnaud, dans notre sport de bonhomme, le droit à la dépression, parfois passagère, est souvent perçu comme une faiblesse, une faille, un tabou, parce que ces moments nous rappellent à notre humanité, à notre vulnérabilité face à la vie. Et pourtant, quand elle est mise en lumière et identifiée, cette période permet souvent une prise de conscience salvatrice. Christopher Tolofua, mesdames et messieurs, est l'un de ceux qui osent parler de ses fragilités, de ses moments compliqués vécus pendant une carrière. À 29 ans, il a déjà tout connu. Équipe de France, champion de France avec le Stade Toulousain, champion d'Angleterre et d'Europe avec les Saracens. Bref, le tableau est plutôt magnifique en apparence. Mais tout n'a pas été rose, car il a aussi connu la blessure importante, les moments de doute. Un moment de dépression passagère qu'il a eu le courage de mettre en mots dans un article publié dans le Midi Olympique. Célébatio Tolofua, Romain, Sébastien et Kylian Taofifenua, Mika Tuilaga, Laurent Pakivato, Sébastien Vahamina, Peato Movaka, Yoran Moefana. Depuis que le rugby pro existe, les phénomènes au gabarit hors normes font les beaux jours des clubs de top 16 et de top 14. Top 16, c'était à mon époque, les gars, quand même. Hein. Des hommes venus du bout du monde, de Wallis et Futuna, une archipel du Pacifique polynésien ou encore de Nouvelle-Calédonie, aux traditions fortes où la famille reste la colonne vertébrale et un support essentiel, voire vital, pour l'équilibre mental et professionnel de ces joueurs hors normes, déracinés et pourtant tellement solides. Christopher porte en lui ses origines, et même s'il a grandi à Marc-en-Barœul, il fait partie de ces hommes qui ont eu une innocence et une timidité qui contrecarrent la puissance qu'ils dégagent sur et en dehors du terrain. J'ai toujours été fasciné par leur discrétion, leur engagement, leur légèreté aussi, et la manière dont ils abordent notre sport. Fasciné aussi par leur gentillesse, je trouvais ça intéressant d'avoir le regard de l'un d'entre eux sur cette construction de gladiateurs des temps modernes aux antipodes de ce qu'ils sont véritablement. Et merci Christopher d'être dans Poulain Rafut. Je suis ravi de te retrouver. Comme on se l'est dit, il y a 9 ans, il y a une vidéo qui a pas mal tourné d'une conférence que j'ai faite à Marcoussis. Et tu étais l'un des acteurs principaux avec une génération absolument hallucinante. Quel parcours depuis 2013 ? Eh bien, on va échanger avec Arnaud. Donc, bienvenue dans Poulain Rafut. Salut.
Salut tout le monde.
Salut Christopher. On va rentrer directement dans le vif du sujet parce que le sujet, il est d'actualité. Christopher, tu as récemment accordé une très belle interview à Midi Olympique, et comme le disait Raph, c'est quelque chose d'assez rare de parler de ses fragilités. Et toi, tu l'as fait de façon très, très transparente, peut-être comme une forme de thérapie. Tu as expliqué avoir fait une mini-dépression, pour reprendre tes mots. D'abord, est-ce que c'est difficile de confesser un tel état psychologique quand on représente dans le milieu du rugby professionnel la force, la puissance, la virilité?
Ouais, bien sûr, c'est un sujet que j'ai mis du temps à digérer, que j'ai mis du temps à mettre sur un papier, à divulguer, que ce soit à mes collègues ou à mes potes autour du rugby, mais aussi ma famille, parce que ça, c'est quand même un sujet qui reste un peu tabou dans nos sports. Mais pour moi, c'était important de le mettre en lumière, parce que moi, j'ai fait partie d'une génération où la transmission elle était hyper importante, et ce qui m'a permis aussi d'évoluer à mon niveau à l'époque. Et non seulement par le biais de Raphaël, quand on s'est vu à Marcoussis, c'était important. J'ai essayé de mettre des mots, parce que j'étais déjà dans le circuit professionnel, et j'ai essayé de mettre des mots sur des attitudes et des comportements et même des questionnements que j'arrivais pas à répondre en fait à cette époque-là. Et ça m'a permis d'ouvrir un peu les yeux sur le rugby qui était rude, mais surtout avec une génération de vieux briscards qui nous laissait pas vraiment nous justifier sur certains points. Et oui, pour moi, ça a été important d'en parler et surtout de soulever la question, parce que avec les dernières actualités, on peut voir que c'est des choses sur lesquelles il faut accentuer, qu'il faut vraiment appuyer, que ce soit ces micro-dépressions, que ce soit l'acceptation du doute en tant que joueur de niveau. Pour moi, c'était important de mettre en avant ce point-là.
Raph, justement, c'est quelque chose auquel tu es sensible. On parlait tout à l'heure, dans le préambule, de votre première rencontre. Donc, il y a 9 ans maintenant, c'était lors d'une de tes interventions pour rappeler un petit peu ce qu'avait été ton parcours et mettre en lumière un petit peu les dangers hein, du rugby professionnel. 9 ans après, est-ce que, c'est une question que je vous pose à tous les deux, 9 ans après, est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience? Est-ce qu'on parle plus facilement de ces sujets-là?
Bah, je pense malheureusement qu'il a fallu attendre des moments tragiques de dépression et de prise de parole et de suicide aussi, parce que si on fait le décompte depuis 2015, on a quand même 5 suicides dans le monde du rugby. Je vais les citer. Hein. Il y a Christophe Viol qui avait joué au PU, il y a Xavier Camp, il y a Christophe Dominici, il y a Geoffrey Abadi, et puis le dernier en date, ce joueur de Rouen en fait qui s'est suicidé. Le témoignage de sa femme est édifiant samedi soir dans le CRC. Christopher qui la semaine dernière prend la parole dans les médias. Je pense que au-delà de ça, on a vu pendant les JO que on a le droit au doute, on a le droit à la faiblesse et que on a tendance à se mettre une carapace homme ou femme. Hein. On se met une carapace d'homme et de femme invulnérable, vulgairement dans le rugby, qui pense avec ses couilles et son cœur. Donc l'aspect psychologique et la tête, en fait, on l'a complètement mis de côté. Donc c'est ce côté mythologique que je reproche un peu au rugby et au sport en général. L'idée aujourd'hui, 9 ans après. Il y a 9 ans, on me disait que j'étais lanceur d'alerte, que je voulais bouffer sur le dos du rugby et que j'avais 10 ans d'avance. C'est le syndicat qui me dit ça. Donc, force est de constater que quand j'ai rencontré Christopher, Baptiste Serin et tous ces joueurs qui allaient rentrer dans le monde professionnel, le message est passé. Et on a besoin d'avoir ce que j'appelle des figures tutélaires qui ne sont pas que des gladiateurs des temps modernes, d'avoir des mecs qui ont connu le doute, parce que le doute fait partie de la vie, parce que la remise en question fait partie de la vie, et que la faiblesse aussi et la psychologie dans le sport, c'est un atout pour être plus performant sur le terrain, pendant sa carrière, et aussi sur l'après. Donc, c'est difficile parce que on est payé pour ça. On est payé entre 10, 15, 20, 30, 50 000 euros. Donc, on n'a pas le droit de se plaindre. Et ce n'est pas de se plaindre que de se dire, en fait, on a des moments de faiblesse, on a des moments de doute, on a des moments de faille et qu'on n'est pas des putains de gladiateurs, en fait. Mais le problème, pour conclure, c'est que ma génération a vendu aussi cet aspect d'homme invulnérable à travers les calendriers, la réussite humaine, à travers l'argent, la gloire, la notoriété, la reconnaissance. Mais où est la part de faiblesse, la part de faille, la part de vulnérabilité? Je pense qu'il est important aujourd'hui d'ouvrir le débat, de faire de la prévention dans les clubs, au-delà du rugby et dans le sport en général, parce que c'est un problème qui est sociétal. Le principe de dépression, c'est quand tu es constamment sous pression pour ta famille, pour tes amis, pour tes entraîneurs, dans le monde de l'entreprise, pour ton N+1, pour ton N+2. Le principe de dépression, c'est quand tu lâches la pression sur tous ces rôles que tu peux jouer. Et Christopher en est un exemple, de par le gabarit, de par ce qu'il représente, de par sa réussite très tôt en plus, quand tu prends la notoriété dans la gueule, très tôt. Donc moi, j'aime la question que je pose à Christopher, c'est comment on vit à 20 ans une notoriété forte comme moi je l'ai vécu de manière éphémère, et comment on arrive à vivre dans la durée avec ce statut d'homme invulnérable, de ce que vous représentez. En plus, je parlais de ces joueurs que tu peux représenter aussi, les Iliens. Mais merde, il y a cette image, il y a cette carapace, mais à l'intérieur, tu es un gamin dans un corps de con. Donc, c'est comment on se construit en tant qu'homme, en tant que père de famille, tu es père de famille aujourd'hui, comment on se construit aussi dans des clubs qui représentent cette réussite humaine par du paraître et pas ce que l'on est à l'intérieur. Voilà. Tu te débrouilles avec ça, Christopher.
moi, je pense que tout fait partie d'un équilibre. Il y a un équilibre dans l'acheminement de ma carrière qui a été fait de haut et de bas, hein. comme tu le sais bien, Raphaël, il y a eu plein de moments où j'ai pris des mauvaises décisions, il y a eu des moments où j'ai foncé à travers un mur parce que j'étais persuadé de certaines choses, mais qui m'ont complètement fait toucher le fond, quoi. Mais c'est, je pense, cet enchaînement d'exigences, que ce soit à la maison, que ce soit dans ta diète, que ce soit dans le facteur mental ou ta psychologie, elle passe après le l'équipe, quoi. C'est que tu sois pas bien dans ta tête, c'est l'équipe qui passe en premier. Ça a été beaucoup cette psychologie que j'ai pas réussi à mettre un mot, en fait, ou à mettre une raison sur ça tout de suite, parce qu'à 20 ans, la première chose qu'on pense, c'est malheureux de le dire comme ça, mais c'est vraiment la célébrité, c'est la télé, c'est comment les parents, faut toujours essayer de de paraître bien, de toujours avoir la banane, de toujours être souriant, de faire tout pour les autres. Et surtout d'avoir cette image du mec qui est invulnérable, comme tu peux le dire, hein, qui tout se passe bien, vous inquiétez pas, tout va bien. Et je pense que ça a été ma principale erreur quand j'ai commencé, parce que j'ai commencé à 18 ans et quelques jours. Donc ça n'a pas été simple, parce que j'étais lancé dans l'arène et on m'a tout de suite dit, ne t'inquiète pas, on est là, on va te coucouner, ça va bien se passer. Et mon erreur, ça a été de me focaliser sur ça et de me dire, c'est bon, on va tout me pardonner. Si je fais des erreurs, les mecs sont là pour moi. Et il se trouve que le problème du rugby de haut niveau, c'est que si tu n'es pas capable de te regarder dans la glace à côté, ce n'est pas les mecs qui vont te regarder dans le rétro après. Donc, c'est le problème, c'est qu'il fallait toujours être exigeant, toujours donner le plus, du plus, du plus. Et le problème, c'est que tu n'as pas d'excuses. Il y a un moment où tu n'as plus d'excuses. Quand tu as 20 ans, que tu passes de 22 ans à 22 ans, de 20 ans à 22 ans, il s'est passé deux saisons. Et c'est deux saisons où l'expérience doit prendre le dessus, ou le facteur psychologique doit aussi prendre le dessus. Il faut que tu sois capable de te remettre en question, mais aussi être au service des autres. Et c'est vrai que ça n'a pas été simple tout de suite, parce qu'il a fallu que je fasse un travail sur moi-même. Et quand tu as 18 ans, la seule chose que tu veux, c'est jouer, c'est t'envoyer comme un kleps tout le temps. C'est tu veux que tout le monde autour de toi sache que... ils savent de quoi tu es capable. Tu veux montrer que tu es le meilleur. Tu veux montrer que tout ce qui se passe autour de toi... Si t'es le seul qui peut tout donner, qui peut leur montrer que c'est toi le patron. Sauf que j'arrive à 18 ans, et à 18 ans, je fais pas mal d'erreurs. T'es facilement influençable. Tu prends pas forcément toujours les bonnes décisions. Et je pense que ça a été mon erreur, parce que j'ai voulu tout donner. Et à un moment où, même à 18 ans, avec ton corps tout frais et que t'es tout flamme, tu te brûles un peu les ailes. Et il a fallu serrer les dents et arriver dans mon appart à Toulouse quand tu finis les matchs et que tu es complètement claqué et que tu as les potes qui viennent te taper à la porte et te disent allez viens on va boire un coup, il y a un moment tu suis la vibe, hein, tu vas boire un coup avec les mecs et puis c'est un engrenage. Il y a ce petit engrenage du jeune joueur de 18 ans, 20 ans, 22 ans qui veut s'amuser avec ses potes mais qui veut faire des matchs de ouf, mais il y a un moment où le haut niveau te rattrape et l'exigence te rattrape aussi et l'hygiène de vie ça a été le point noir du début de ma carrière. Ça a été du tout te donner à fond, et puis te donner à fond aussi avec ta famille, te donner à fond avec tes collègues. Et à un moment, après moi je parle avec ma petite expérience maintenant, mais il faut vraiment que nous en tant que pseudo-anciens, on soit capable de tirer le frein à main aux plus jeunes générations pour leur dire que il y a des moments pour profiter, il y a un moment où il faut s'envoyer, il y a un moment où l'exigence elle demande certaines choses,
Christopher, bien sûr que c'est de l'importance des joueurs, mais c'est de l'importance des dirigeants aussi, c'est de l'importance du rugby français, en fait, de comprendre et de prendre sa part. On ne peut pas dire que c'est de la responsabilité du joueur à 18, 20 ans, 22 ans. Non, on a la génération qu'on mérite. Les problématiques que tu as traversées, en plus, tu étais, je dirais, la génération charnière avec un rugby hyper professionnel qui est aujourd'hui. Donc, de tirer des leçons de ça, et c'est pour ça que ton témoignage est important et qu'il y en aura de plus en plus, parce que ces moments de faille, on les traverse tous et toutes. Donc, c'est important, mais c'est important aussi de la prise de conscience à la fois de la Ligue, de Proval, des instances dirigeantes, aussi des coachs, parce que tu parles de déni du corps. Quand tu es dans le déni du corps et que tu te pètes, mais tu as envie de revenir sur le terrain plus rapidement que prévu, tu es dans le déni. Et après, tu as la colère qui se dit « Ah ouais, mais j'en veux à telle personne. » Moi, j'ai arrêté à 25 ans, c'est pour ça que je prends toujours mon exemple, parce que je suis la seule personne à me connaître véritablement en profondeur. La responsabilité, elle est partagée. Tu ne peux pas exiger à un gamin de 20 ans de prendre la notoriété, en plus les réseaux sociaux qui arrivaient pour ta génération, de prendre le public, des réseaux sociaux, le côté malsain des réseaux sociaux. Tu prends tout ça dans la gueule, et puis c'est normal. Et puis tu as cette image derrière aussi du mec, comme moi j'ai eu, hein, l'image du mec, il est plus titulaire en troisième mi-temps que sur les deux premières. Ouais, mais tu as envie d'appartenir au groupe. Tu as envie, quand les mecs t'ont à la porte pour dire viens boire un coup alors que ça fait 3 semaines que tu es en rééducation, tu y vas. Sauf que tu t'oublies un peu. Et puis après, quand tu fais le bilan, tu dis, ouais, il y a des regrets. Mais tu n'es pas seul responsable dans la situation, quoi. Je pense que c'est vraiment le monde du sport qui doit se responsabiliser. Merlo.
Christopher, non, juste.
On a la chance aussi et la malchance d'avoir un sport qui prône une. Comment dire? Qui prône aussi une image de sport convivial. Donc, je pense que ça fait partie de nos sports aussi. On est super content d'avoir gardé ce côté. côté mythologique de la troisième mi-temps et tout, et ça fait partie de notre sport aussi. Donc, je pense on peut se regarder. Moi, je peux me regarder dans la glace et en me disant, j'étais boire un coup avec les mecs parce qu'on en avait besoin aussi, tu vois.
Bien sûr, bien sûr.
Christopher, est-ce que tu as senti qu'il y avait eu un avant et un après ton interview paru dans Midi Olympique? Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a des gens qui t'ont découvert sous un autre jour? Est-ce que tu as reçu des messages, des témoignages qui t'ont marqué, qui t'ont touché? Est-ce que tu as le sentiment que les gens te découvrent peut-être sous une autre facette?
Après, voilà, comme je disais, tu vois, c'était pas le but, c'était pas de me mettre en lumière, c'était vraiment d'avoir un message de transmission et surtout de mettre un mot sur les doutes de certains joueurs, parce qu'on a chacun notre manière de voir les choses. Moi, c'était vraiment d'expliquer que ben, le sport de niveau, c'est bien, mais il y a des exigences, il y a des droits et des devoirs. Et je pense que sa part de responsabilité individuelle, elle est déjà conséquente. Donc, si tu n'es pas capable de mettre une responsabilité sur certaines choses, et pour moi, c'est le plus important, c'est que quand tu es blessé, tu es blessé. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Il y a un moment où il faut savoir le dire. J'ai mon frère qui a eu la chance de faire le même parcours que moi à travers les jeunes équipes de France. Et il y a des petites cellules qui sont créées pour ça, donc, que ce soit dans la prépa mentale au service de la performance. Mais il y a des cellules psychologiques aussi qui te permettent de te parler quand ça va, quand ça ne va pas. Moi, j'ai eu la chance de faire la démarche individuelle, d'aller voir une personne experte dans le sujet. Et je pense qu'il est très important de sensibiliser les jeunes, parce que c'est pas un tabou en fait de parler. C'est vraiment, enfin, ça fait ça, ça, ça. Moi, je dis que ça ressemble plutôt à un second souffle, parce que quand tu as la pression sur toi, plus l'exigence des prépas, plus l'exigence des coachs, plus l'exigence de tes collègues qui te regardent tous les jours en disant putain, il va pas bien, il va pas bien, il va pas bien, il y a un moment où tu es obligé de te prendre en main, parce que tu peux pas te dire c'est la faute de l'un, c'est la faute de enfin, c'est la faute de l'autre. C'est il faut te regarder dans une glace et te dire merde, putain, j'ai fait de la merde. Bon, allez, qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu peux faire pour aller mieux?
Et ça, c'est comme tu dis, c'était un tabou pour ma génération. Et le fait que tu prennes la parole, le fait qu'on prenne la parole au fur et à mesure, c'est d'identifier ça pour enlever justement le tabou, c'est-à-dire désacraliser la psychologie dans le sport. Parce que tu es d'autant plus performant quand tu as un coach mental, parce que ça te permet justement de bien comprendre tes sources de motivation intrinsèques. Et ça va rejoindre un petit peu ce que vous vivez, vous, les Iliens aussi, enfin, cette culture que vous avez très famille. Quand tu es constamment à vouloir porter tes parents, porter la famille aussi derrière, porter tout le monde. Et moi, je l'ai fait, et pourtant, je suis picard, hein, je ne suis pas du tout Ilien, mais j'avais envie de porter mon père parce qu'il n'avait pas vécu ce que j'ai vécu. J'avais envie de porter ma mère, j'avais envie de porter mes sœurs, j'avais envie de porter mes amis. J'ai filé tout mon oseille et j'ai porté. Mais il y a un moment où ta motivation intrinsèque, c'est quel plaisir je trouve en fait dans ma performance individuelle. Pas pour prouver à mon coach, à tout le monde à l'extérieur, mais moi avec moi-même. Et c'est la connaissance de soi. Et le principe de dépression, je répète, donc de prendre la parole là-dessus et de se regarder en face, ça permet d'identifier ses failles, sa vulnérabilité et d'en faire une force.
Exactement.
Est-ce que vous comprenez quand même que ce sujet de la fragilité mentale soit aussi tabou dans le rugby? Pourquoi les instances ne prennent pas le sujet à bras le corps? Pourquoi ça reste quand même des témoignages relativement à la marge, hein? On l'a vu là, Mathieu Bastareau qui a été chez nos confrères de Canal+ pour évoquer le sujet. On l'a vu donc avec Christopher. Mais pourquoi ça reste tabou dans le milieu de rugby? Il y a quelque chose qui nous échappe quand même quelque part, non?
Si.
Ouais, je sais pas. Moi, franchement, j'ai pas envoyé de message à Mathieu, mais j'ai été très sensibilisé de son discours, parce que aujourd'hui, sur la scène internationale, quand on parle d'internationaux, on parle de Fred Michalak, on parle de Mathieu Bastareau, et c'est des joueurs quand même qui ont un caractère fort, et qui ont été dans la vitrine de l'équipe de France et de la France de manière générale. Donc, ces mots, ils ont été forts, parce que j'ai vraiment eu cette petite émotion, le fait qu'il en parle, parce que c'est pas simple d'en parler, surtout devant toute une assemblée, devant la France entière, dans le monde du rugby. C'est vrai que ça n'a pas été simple. Je pense que pour lui, c'est pas simple d'en parler, mais moi, l'article en lui-même, enfin, j'étais face à une personne et je lui dis, franchement, j'ai vidé mon sac de manière précise, mais j'ai pas trop non plus étendu le sujet. Mais je pense que Mathieu, il fait partie de cette génération, comme tu disais, Raph, hein, il fait partie de cette génération où à qui on pardonne rien, et qui ont été très très durs, je pense, dans l'appréhension du rugby de l'époque. Et c'est vraiment une transmission forte de le voir se livrer comme ça. Après, je sais pas ce que t'en penses toi, hein, Raph, mais moi,
Non,
c'est.
mais tu as entièrement raison, on le sait que c'est générationnel, mais je vais même aller au-delà du rugby et au-delà du sport. de manière sociétale, la réussite humaine, comme je l'ai dit, en tout cas pour un homme, c'est être viril, ne pas être faible. Quand tu es petit à l'école, c'est écraser l'autre pour être le premier. Et après, on te demande justement de pouvoir cohabiter avec l'autre pour pouvoir travailler en équipe. Et donc, c'est cette réussite humaine, en fait, et cette espèce de cliché de virilité où tu n'as pas le droit à la faiblesse, tu n'as pas le droit à la vulnérabilité. Mais ça va bien au-delà du rugby et ça va, c'est 2000 années de patriarcat qu'on porte, en fait. Tu n'as pas le droit d'être faible. L'homme est comme ci, la femme est comme ça. Et la chance qu'on a aujourd'hui, merci les réseaux sociaux, merci aussi l'ouverture au monde, c'est qu'on peut avancer différemment, on peut apprendre différemment, on peut s'améliorer par des témoignages, par des partages d'expériences, par de la philo, par de la psycho, par d'essayer de donner du sens, en fait, un autre sens à ce côté invulnérable qu'on vit dans le rugby. Et ma génération, ça a été ça, c'est des couilles, du cœur, du courage, on est ensemble. Et voilà, donc l'individu se fond dans le collectif. Et puis, voilà, dans le rugby, soit tu es mis sur un piédestal et dans le sport aussi, soit tu te fais défoncer quand tu franchis la ligne blanche. Ouais. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Et c'est ce que dit, c'est ce que tu dis, Christopher. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Parce que tu commences à montrer qu'il y a une part d'échec, en fait, dans la psychologie, quand tu te remets en question dans la dépression. Mais ce n'est pas un échec. Tu te construis. Quand tu es bébé et quand tu avances et que tu apprends à marcher, on t'apprend à marcher jusqu'au moment où tu marches seul. Ben, devenir adulte, c'est ça aussi. On t'apprend à sortir de l'adolescence. Mais et dans le rugby, et ce qu'a vécu Christopher, c'est presque une caricature de ce qu'on vit en tant qu'homme dans notre construction. La notoriété à 20 ans, toute cette construction, donc tu te formes une carapace de mec invulnérable parce que tu réponds à ce qu'attend la société de toi. Et puis en fait, quand ça ne va pas, ah ben tiens, t'as vu comment il est Christopher ? Ah ben Poulain, il était alcoolo. Ah ben t'as vu ce mec, il était complètement malade qui a sauté du quatrième étage. Ah ben Domi, il était fou. Ah ben Geoffrey Abadi, il était fou. Christophe Viol était fou. Mais en fait, on ne représente de manière caricaturale que ce que vit tous les hommes de notre société. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas en parler. On n'en parle pas. Mais si, allez, on y va. Vas-y, on y va. Moi, je me dis, voilà. Et c'est ça le courage de l'être humain. Ce n'est pas de plaquer 30 mecs sur un terrain. C'est une fois de plus de se regarder en face et de faire une fois le tour de soi-même et de se connaître. C'est ce que t'apprends la mythologie et la philo. C'est ça. Et quand tu te sens bien avec toi-même, ben, tu es bien avec les autres. Quand tu te sens bien avec toi-même, tu es beaucoup plus performant sur le terrain parce que tu t'es apaisé. Voilà. Donc ça demande à un moment à lâcher la pression de ce qu'attend le monde extérieur sur toi. Voilà.
C'est ça.
Christopher, est-ce que tu t'es vraiment senti seul justement dans ce parcours-là ou dans l'entretien que tu as donné à Midi Olympique, tu évoques notamment le soutien de ton épouse hein, qui a eu du courage à supporter, je reprends tes mots, un pénible comme toi. Mais est-ce que tu as reçu aussi d'autres soutiens ? Est-ce que le club justement est venu vers toi pour te proposer un accompagnement ? Est-ce que des institutions, le syndicat Proval, est-ce que… Voilà, on a le sentiment que pour les institutions, c'est un sujet qu'on laisse un petit peu de côté quand même.
Bah, disons que moi, j'ai vraiment voulu un peu mettre en lumière ma femme et mes enfants. C'est parce que c'est aujourd'hui, si je dois dire, c'est quoi qui me pousse à mettre un short et des crampons pour aller casser la gueule à un mec sur le terrain, c'est clairement ma famille. C'est la réussite de l'équipe et tout. Hein, mais alors, déjà, depuis que j'ai eu mon premier enfant, ça n'a pas du tout été pareil. J'ai eu une appréhension du rugby complètement différente. C'était vraiment, je considérais moi que c'était vraiment du plus quoi. Le rugby c'était vraiment du plus, c'est vraiment le moment où je me régale, où je m'amuse, où je m'envoie, où je veux juste que mes enfants soient fiers de moi, je veux que ma femme elle soit fière de moi aussi, je veux les mettre dans les meilleures conditions pour avoir une vie correcte et surtout être en bonne santé. C'était pour moi le point principal. Et franchement ouais, c'est un peu, enfin je suis un peu émotif d'en parler comme ça parce que c'est vraiment le cas. Depuis que j'ai rencontré ma femme, ça a été vraiment un changement dans ma vie parce que c'est une personne qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur mon entourage. Des fois, quand on est joueur de rugby et qu'on a un entourage qu'on pense fort, il y a des moments de ta carrière où il faut que, quand ça ne va pas, parce que ça n'allait pas, il y a un moment où il faut modifier des choses et il faut prendre, et faut surtout avoir les couilles de le faire. Faut avoir les couilles d'en parler, faut surtout se poser dans un coin de ton appart ou de ta maison et te dire putain mais qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là. Et je trouve que j'ai une femme de caractère et je pense que sans elle il y a beaucoup de choses qui auraient été différentes aujourd'hui si je l'avais pas. Et aujourd'hui franchement quand je dis que je lui tire mon chapeau c'est que quand elle sait, parce qu'elle sait ce que c'est l'exigence, parce qu'elle a fait du sport de niveau aussi, elle sait ce que c'est l'exigence, elle a fait un sport individuel, donc c'est complètement différent. Mais ça se rapproche beaucoup de ce que je vais dire. Parce que quand tu es poussé à l'exigence de la performance tous les jours et qu'on ne t'accorde rien, qu'on ne te donne rien, elle a su trouver les mots pour te dire, écoute, est-ce que tu te considères comme la plus grosse merde est-ce que tu es un joueur de bas étage? Est-ce que tu te considères nul, pourri? J'ai dit, ben non, je pense que j'ai quand même quelque chose. Voilà. Elle m'a dit, ben maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout faire. On va te mettre dans les meilleures conditions pour que tu arrives. Et là, de A à Z, j'ai gravi un peu les marches d'escalier. Ça a été dur parce qu'il a fallu revenir d'une blessure au cervical. Il a fallu se remettre la tête à l'endroit, se regarder dans la glace et se dire, ben écoute, je suis pas si nul que ça finalement. Donc.
C'est marrant ce que tu dis parce que je vais parler un peu de mythologie, mais en mythologie, c'est toujours une femme qui révèle à l'homme son potentiel. En fait, c'est notre part féminine, notre vulnérabilité. Le problème, c'est quand tu dis ça, tu as pas mal de rugbymen qui disent bah, on n'est pas des pédés. Et quand bien même, si c'était homo, tu vois le truc, c'est juste cette part en fait de sensibilité, pas de sensibilité, mais de sensibilité. Et moi, et tu rends hommage à ta femme, et j'en profite pour rendre hommage à la mienne, qui n'a pas connu ma notoriété, mais qui m'a connu juste après ma carrière. Mais en fait, elle te met face à toi-même, en fait. C'est un moment où mais par ses attitudes, elle te met face à toi-même. Elle a cette force que tu n'as pas. Et pour aller chercher cette force, il faut te regarder en face, comme tu le dis. Et c'est pour moi le plus grand décourage. D'où l'importance et la question d'Arnaud, c'est vraiment, au-delà de ta femme, est-ce qu'il y a eu un accompagnement de la part de... Proval a mis un numéro vert en ligne. Mais c'est hyper difficile de prendre ton téléphone quand ça ne va pas et de dire, bah, tiens, je vais appeler Proval ou je vais appeler... Sachant qu'il n'y a pas eu de prévention en amont, quoi.
Non, c'est
Et dans
ça.
le club aussi, quoi.
Déjà, c'est extrêmement compliqué de se livrer en tant qu'homme, de se livrer à une personne. Moi, je me suis vraiment tourné vers la personne qui me connaissait le mieux, en fait. Donc, appeler un numéro vert, parler à une personne que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, c'est quelque chose, ça rentre vraiment pour moi, ça rentre vraiment un peu dans l'intime, quoi. Tu vois, c'est vraiment des choses que je suis pas un grand fan, je suis pas un grand fan de ça. J'irai pas, je me serais jamais tendu vers une main comme ça. Mais après, te dire que oui, je sais que les nouvelles générations ont ces attributs-là. Moi, j'ai pas pris la décision de le faire. Mais pendant mes blessures longues, déjà j'en ai une que j'ai dû digérer tout seul avec ma famille en Angleterre des cervicales, parce qu'on m'a complètement jeté sous les roues du camion. Hein, je vais pas le mentir. Hein, quand on m'a annoncé que le rugby c'était fini. Et qu'encore maintenant, quand je vois des supporters après les matchs qui me disent, ouais, mais t'es parti en Angleterre pour tes cervicales. Bah non, en fait, je me suis blessé, mais j'étais pas blessé. En fait, j'allais très bien. Et ce qui est fou dans ce processus-là, c'est que pour te dire, le mardi, je passe un IRM parce que j'avais pas de licence en France. Quand je suis sélectionné avec l'équipe de France, je passe un IRM le mardi. Le mercredi, le doc il vient me choper pour me dire sur le jour off, il vient me choper pour me dire que bah, je peux pas jouer, mes cervicales, c'est pas bon. Mais c'était pas du tout une histoire de mauvais rachis cervical, c'était une histoire de papier entre guillemets, tu vois. C'est que mon scan en décembre, en novembre dernier, quand je fais la tournée avec l'équipe de France contre les Blacks, France B, elle est bonne. Et année civile, je passe à une nouvelle année. Et donc, du coup, les standards sont plus les bons. Donc c'est juste ça. Le scan est presque le même, quoi. Donc c'est pour te dire à quel point quand les médias décident de t'enfoncer, ils t'enfoncent vraiment, quoi, tu vois. Donc voilà, je vais pas, pour en revenir à ta question, je vais pas dire que j'ai pas été aidé. Il y a des mains que j'ai pas su aller chercher, mais j'ai préféré me trouver moi-même, tu vois, les clés. Oui, j'ai pas forcément eu j'ai eu le soutien j'ai eu le soutien du club à travers des entretiens. Enfin post-traumatique, c'était post-blessure de longue durée. Donc on a eu ces entretiens psychologiques, mais après voilà, moi j'ai pas pris la décision de forcément les faire parce que j'avais dans la tête,
Entrepris une démarche individuelle.
j'avais entrepris la démarche individuelle. Donc je partais du principe que ça allait, et ça allait parce que j'ai repris l'entraînement facilement, ça s'est très bien passé. J'ai pas eu d'appréhension, ou j'ai pas eu un doute ou une boule au ventre avant de rattaquer les trucs. Est-ce que je vais être bon? Est-ce que je vais être mauvais? Qu'est-ce qu'ils vont attendre de moi? Et pourtant, j'arrivais en fin de contrat. Hein. Donc, tu vois, c'était vraiment ce déclic, quoi, de se dire, bah, ça y est, je pense que je suis prêt. Ça y est.
Messieurs, on va changer un petit peu de thématique, même si on va y rester quand même. Mais Christopher, ta famille est originaire de Wallis et Futuna. Tu as grandi dans une culture qui fait place beaucoup à l'humilité, à la discrétion, où on n'étale pas forcément hein, ses sentiments. On est des gens pudiques, je crois, chez les Iliens. Comment ton témoignage, finalement, a été perçu dans ton cercle familial?
Après, moi, je t'avoue que j'ai pas forcément eu de retour de la part de ma famille à ce sujet-là. Mais voilà, on m'a juste dit que c'était un bel article et que voilà, c'était tout simplement un bel article. J'avais pas forcément eu d'avis des uns des autres. Tu vois.
La pudeur jusqu'au bout, donc.
Ouais, oui, il y a un peu de ça aussi, je pense. Mais nous, je suis issu d'une famille qui sont des cinq frères. Donc, on parle de ces choses-là vraiment quand on est en vis-à-vis. Mais après, on n'est pas des grands fans de parler au téléphone, tu vois, ces choses-là. Déjà, on est tous les trois dans un circuit de rugby, donc on n'a pas forcément l'occasion de tout le temps se voir. Mais quand on se voit, on profite au max, quoi. Donc, on évite de parler de ces sujets-là. Ce n'est pas forcément ce qui nous anime le plus, quoi.
Alors justement, on va parler un petit peu de tes racines. Même si tu es né à Fréjus, hein, on le rappelle, tu as débuté, Raph l'a souligné, le rugby à Marc-en-Barœul. C'est pas très loin de la Picardie, je pense que c'est pour ça que tu l'as souligné, hein, Raph. Quel lien tu entretiens finalement aujourd'hui avec tes racines wallisiennes, Christopher?
Ben, disons que j'ai été éduqué dans la tradition wallisienne, hein, donc. Donc franchement, j'ai eu tous les. Bon, je parle pas couramment wallisien. Voilà, c'est la question. C'est pas trop le sujet. Mais après, j'ai eu les traditions, que ce soit dans les danses traditionnelles ou ces choses-là, les rassemblements de famille, ça a toujours été un peu les super moments entre cousins, ces choses-là, quoi. Du coup, c'était des super expériences que j'avais avec le temps. D'ailleurs, j'en suis très fier. Hein. On peut en parler parce qu'on a des joueurs issus aussi pareil de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna dans l'effectif, qui sont Emeric, Raph et tout, donc Raph Lacafia. Donc on sait bien sûr d'où on vient, mais après nous on est beaucoup plus métropole. Hein. Nos parents ils ont été issus de cette génération qui sont venus entre guillemets migrer en France par le service militaire. Donc nous on a juste pris le côté traditionnel familial. Après on n'a pas eu les racines pures et dures de la vie sur les îles, quoi. Donc,
comment t'expliques ces gènes? Parce qu'il n'y a pas que le côté familial. Comment t'expliques ces gènes? C'est monstrueux, les gars, sans déconner. Oui, les gènes physiques, quoi. C'est gènes.
Alors, nous, à chaque fois, on dit ça en rigolant. Hein. C'est vrai qu'on dit ça en rigolant, mais on a été élevé un peu au tarot et à l'igname, quoi, tu vois. Donc, c'est un peu ça, le truc. Tous les repas qu'on a pu faire, c'est riz poulet, quoi, en règle générale. Ouais. C'est le plat que même toi, le bon vieux Wallisien de métropole, quand tu rentres chez toi et que tu ne sais pas quoi faire, c'est riz poulet.
Raph, toi, tu voulais aborder ce sujet, notamment, parce que, alors, Christopher, on n'est pas un exemple fondamental, mais par rapport au déracinement, et c'est la question que je poserai aussi à Christopher, c'est vrai que pour beaucoup de joueurs qui arrivent de Nouvelle-Calédonie, de Wallis et Futuna, et si on élargit plus les joueurs fidjiens, les joueurs tongiens qui arrivent en métropole, c'est un vrai déracinement, c'est un sujet qui te tient à cœur, ça, Raph, je crois.
Bah, parce que moi, j'ai été déraciné d'un petit village de 700 habitants en Picardie, donc il n'y avait rien à voir avec le rugby. Donc, autant dire, quand je suis arrivé à la capitale, soi-disant, du monde moderne, à Paris, avec ce qu'on connaît des calendriers et tout ça, ça a été un putain de déracinement. Et pourtant, je n'étais qu'à 100 bornes de chez ma famille. Je n'étais qu'à 100 bornes. Donc, tu imagines quand tu tapes 5 000, 10 000 kilomètres, c'est pas la même culture. Et on ne voit qu'à travers ce que tu représentes en termes de gabarit. Moi, je l'ai vécu, hein, je faisais 100 bars. Donc, on a vu, ah ben, Poulain, vas-y, il n'a jamais su faire un 4D, et voilà. Mais ben, c'est pareil pour ces mecs-là qui débarquent du bout du monde avec une culture différente, avec cet aspect familial qui est hyper important, qui est viscéral. Et puis, je sais pas, hein, quand tu vis à côté de la mer, sur le côté insulaire, et tu te retrouves, ben, que ce soit à Toulon, il y a la mer, mais voilà, Marc-en-Barœul ou ailleurs, en fait, c'est un déracinement. Donc, mais on ne le comprend pas. On ne voit, une fois de plus, et ça rejoint la discussion qu'on a depuis le début, on ne voit que l'apparence. Oh, bah, putain, Vamina, il fait 2 mètres, il fait 120 bars, c'est une machine de guerre et tout. Et moi, j'ai toujours vu Vamina comme un gamin dans un corps de grand, quoi. Et même, tu vois, cette sensibilité qu'il a, qui est super belle. Et le mec, il est parti d'un truc très famille, ouais, pour arriver dans un appartement perché. Alors, un appartement peut-être de 200 mètres carrés. Mais tu n'as pas la vue sur la mer, tu n'as pas tes potes à côté, tu n'as pas cette culture où en fait tu t'entraînais pieds nus sur un terrain. Enfin, c'est tous ces petits aspects en fait de la construction d'un mec qui débarque. Et les Fidjiens, on l'a vu aussi, hein, les Fidjiens qui débarquent avec leur culture, qui ont besoin de se réunir. Et ouais, y a eu un groupe d'ailleurs qui a été créé, un groupe Les Pacifiques, un groupe qui se crée justement pour garder cette culture à l'intérieur. C'est d'ailleurs un joueur de Perpignan en troisième ligne qui fait des énormes barbecues. On a vu ça sur les réseaux sociaux. Mais ils ont besoin de ça, en fait. Je pense qu'il y a ce besoin, en fait, de pouvoir s'identifier à sa culture, à des mecs qui ont un peu vécu dans cette culture insulaire. Et je pense qu'il est important. Moi, j'ai un exemple de ce mec. Comment il s'appelait? C'est Emory Bolo Bolo qui, en 98, après le titre, balance, il fout le feu dans le four, il balance le four du septième étage, complètement inconscient. C'est con. Non, mais c'est un exemple. C'est le mec, il avait son majordome, il arrivait de son île, et voilà, on l'a pris pour un extraterrestre. Mais juste comprendre que ce mec-là, il vit complètement différemment, en plus avec une forte notoriété, le Stade français venait d'être champion. Donc, c'est se mettre à la place des gens, en fait, de se mettre à la place de ces mecs qui débarquent du bout du monde pour jouer dans un truc. Ah, bah ouais, tu gagnes de l'argent, donc tu dois être comme ci, comme ça. Non. Non, non, non. Et eux, ils ont cette spécificité-là qui, pour moi, est une putain de force. Je parlais d'humilité, je parlais de simplicité, c'est pas du tout péjoratif. Il y a ce côté un peu naïf que nous, Français de souche, on a un petit peu perdu. Et ce côté-là, il est important parce que tu sens dans leur jeu la notion de plaisir de jouer au rugby, quoi.
Ah ouais, complètement. C'est vrai.
Christopher, tu te sens proche de cette communauté parce que ce sont tes racines, même si voilà, tu es né à Fréjus, tu as grandi à Marc-en-Barœul, que tu es un métropolitain classique. Mais est-ce que tu te sens proche quand même, justement? Est-ce que tu partages? Est-ce que ce que Raph décrivait à travers ce communautarisme qui existe, les retrouvailles autour d'un barbecue, de traditions particulières, est-ce que tu te sens proche de cette culture?
Oui, bien sûr. Après, comme je disais, même si j'ai grandi en métropole, mes parents ont toujours essayé de garder ça, en fait. Chez nous, c'est vraiment de se rassembler quand on en a l'occasion. Quand on joue des matchs à l'extérieur, on a très souvent l'opportunité de se voir un jour avant avec des joueurs. Hein. Donc, ça fait toujours partie un peu de notre culture de se revoir, de boire un café ensemble, discuter. Et puis, c'est toujours des discussions qui terminent jusqu'à point d'heure le soir. Hein, mais c'est un peu ça. Je pense que chaque ethnie, entre guillemets, a sa culture et sa façon de voir les choses. Moi, je sais que quand je suis arrivé à Toulon, j'avais mes cousins qui étaient là. J'avais Aymeric Sétiano aussi. Et après, Mathias est arrivé prendre le flambeau de José Souta. Tu vois, c'est plein de petites passations de flambeau. Et pour faire le rapprochement, moi, quand je suis arrivé à Toulon, je ne connaissais pas du tout Raph Lacafia, mais ce que je lui dis, c'est que moi, j'avais un poster de lui préparant la Coupe du Monde dans ma chambre. Donc, pour nous, c'était une fierté, quoi, d'avoir un joueur de Nouvelle-Calédonie, issu de Nouvelle-Calédonie, qui joue en équipe de France. C'était comme pour Romain Tao, pour Seb Bamaina, ça a été un truc de fou. Et puis, de pouvoir le toucher par la même occasion après, c'était un truc de malade. C'est s'inscrire dans les joueurs de Wales et Futuna qui ont marqué l'histoire de la France. Et c'est une fierté. Après, aujourd'hui, on voit plein de choses. J'ai vu plein de choses dans les réseaux sociaux qui disaient comme quoi il y avait des ethnies qui voulaient avoir récupéré les joueurs qui avaient joué dans des sélections nationales. Et ça aussi, c'est un truc. Moi, je suis à 200% derrière ça parce que je pense que chaque ethnie devrait pouvoir être fière de représenter son équipe, mais qu'elle soit bonne ou moins bonne. Et je tire mon chapeau à ces joueurs tongiens et à moi qui ont pris la décision de jouer avec leur sélection, parce que je trouve que c'est hyper courageux. Et je trouve que la passation de génération en générationnelle sur ça, elle est énorme. Parce qu'on a plein de joueurs qui ont joué en Nouvelle-Zélande parce que c'était vraiment le feu de jouer pour la Nouvelle-Zélande et tout. Mais franchement, c'est comme tu dis... Cette manière de se rassembler toujours après les matchs ou de se voir et tout, ça fait partie de notre culture et je pense que c'est important de continuer à le véhiculer. Les nouvelles générations, elles le font très bien, et que ce soit les nouvelles générations comme Yoram Moefana ou Donovan, on fait partie de ces joueurs qui ont grandi en France, qui ont fait toutes leurs écoles dans le cursus scolaire français et rugby aussi. Et ça nous a permis de nous étoffer en tant que joueurs de rugby, mais ça permet aussi de se dire aussi des fois, le rugby c'est bien, mais la tradition, elle ne s'oublie pas non plus. Et ils le savent très bien, les parents sont là pour ça.
Ouais, c'est bien ça. Christopher, il y a un dernier volet qu'on va aborder rapidement, parce que ça fait déjà longtemps qu'on est ensemble, mais qui c'est une thématique assez récurrente dans l'émission, parce que ça agace. Ça énerve, ça Raph Poulain, ça le titille, c'est les réseaux sociaux. Parce que justement, dans l'interview que tu as donnée aussi au Middle, tu as évoqué les insultes, les menaces que tu avais reçues sur les réseaux sociaux. Espèce de guignol, je vais te crever, sac à merde. Je te cite. Hein,
je pense que là, on a trouvé le cerveau de la bande. Là. Je pense que là c'est le.
Voilà le genre de message soleil, que tu as reçu.
Franchement, si tu savais ce que j'avais reçu à 18 ans, tu t'imagines même pas. Franchement.
Comment tu vis ? Comment tu vis ça ?
Maintenant, j'ai 28 ans, ça va faire presque 10 ans que je suis dans le circuit professionnel. Comment t'expliquer ça? Franchement, c'est Alors, je trouve ça complètement con, déjà, parce que derrière un écran, c'est hyper facile de dire ce que tu veux. Mmh. Et puis, quand j'étais blessé, je me suis mis à la place de ces gens-là parce que je regardais le rugby de l'extérieur, je regardais les matchs d'équipe de France, je regardais les matchs de mon équipe qui étaient au plus bas et ça me cassait les couilles d'entendre des gens parler parce qu'ils ne savent pas ce que tu vis au quotidien, ils ne savent pas le sang, la sueur que tu lâches à travers les entraînements. Ils n'en sont pas conscients, mais tu ne peux pas leur en vouloir parce que. Après, moi aussi, le recul, c'est que moi, je croisais des supporters quand j'allais manger dehors qui me disaient qu'ils étaient complètement éclatés, bourrés, qui te disaient « Ouais, mais moi, je paye mon abonnement 250 € par mois et je viens vous voir, vous jouez comme des pipes et tout. » Je dis « Oui, d'accord. » Je dis « Mais est-ce que ça nécessite un comportement comme ça après un match complètement arraché ?» Je dis « Franchement, je pense pas. Je pense qu'on est tous humains avant tout. » Et moi, si j'étais supporter, et je le serais bien sûr après ma carrière, je ne suis pas sûr qu'aller voir un mec après un entraînement, après un match complètement éclaté et lui dire ses quatre vérités, je ne suis pas sûr que ça va le faire avancer l'équipe et ça va faire gagner des matchs. Donc moi, comme je le disais dans l'interview du Midal, je ne pense pas que ce soit la meilleure attitude à adopter et je ne pense pas que c'est de cette manière-là qu'on aide les joueurs à avancer, les jeunes joueurs de la nouvelle génération, parce qu'ils sont... Il faut dire ce qui est, ils sont martelés par les réseaux sociaux, ils sont martelés par les interviews, par ce que les gens pensent d'eux, ce qui sort, que ce soit par l'équipe de France ou à travers Rugbyrama, le Midol, l'équipe, tout ce qui sort, tous les en-têtes d'articles, ça attaque mais psychologiquement un joueur, mais d'une puissance. Quand on entend des choses comme ça, que tu arrives sur une fin de contrat, en tant que apparemment tu es annoncé sur le départ, alors que tu n'as pas t'as ni l'avis du président, ni l'avis de tes coachs, rien. C'est quelque chose de dur quand ça passe à travers la gorge, c'est pas simple. Donc ouais, je pense que c'est quelque chose qu'il faut non seulement modifier, mais surtout qu'il faut digérer, quoi, parce que c'est pas simple, hein. Franchement, c'est pas simple.
C'est là où l'accompagnement est important, Raph.
Il y a une boîte qui s'appelle Fort Success qui bosse là-dessus sur Paris. Il y a plusieurs boîtes qui font de la prévention justement et de l'accompagnement aussi par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à l'image qu'on peut véhiculer en tant que sportif. Mais tu sais, le témoignage que tu as aujourd'hui, Christopher, et dans le Midol et aujourd'hui avec nous, ça va peut-être permettre aussi aux auditeurs et aux auditrices de comprendre un peu ce qu'est l'homme derrière le rugbyman. Et donc, d'être un petit peu plus aussi tolérant, de comprendre que, en fait, c'est pas 7 jours de boulot par semaine, juste trois séances de muscu, c'est un peu l'image qu'on s'en fait, 3 séances de muscu, les mecs s'entraînent, ils sont au soleil, ils prennent 20 000 balles, et c'est beaucoup plus complexe que ça. Et le fait de ton témoignage, c'est de comprendre un peu que voilà, l'être humain derrière le sportif, casser un petit peu la carapace, casser un petit peu l'armure pour faire comprendre aux supporters qui, oui, payent leur abonnement, que en fait, tu as le droit d'avoir des contre-performances, que parfois la notion de groupe et l'amalgame se fait peut-être difficilement parce qu'il y a des changements d'entraîneur. C'est de comprendre un petit peu le contexte plutôt que de montrer du doigt l'individu. Moi, je l'ai vécu et j'ai pas, heureusement que je n'ai pas eu les réseaux sociaux, sinon j'aurais emplâtré les mecs, quoi. Je me serais battu. Mais à la différence de ta génération, Christopher, c'est que tous les mecs, les mecs qui étaient au coin du bar qui te permettaient de te dire ça. Mais les seuls mecs qui te permettaient de te dire ça, c'était les grands frères, hein. C'était les domis qui te mettaient des nuquettes, c'était les bibis au radou et tout ça. Tu n'avais pas un gonze qui, au coin du rat, venait te voir en disant ouais, « t'as joué comme une merde », parce qu'il savait très bien, si ça m'est arrivé une fois à Pau, le mec il est venu me voir en disant ouais, « Poulain, t'as loupé une passe ». J'ai été éméché, il a pris un coup de boule, j'en ai pris pour 4000 balles. Et c'était con, mais j'ai expérimenté ça. Mais le mec est venu, il a peut-être eu ce courage-là de venir. Bon, d'un autre côté, on venait de perdre contre Pau, il y avait 20 mecs en costard, quoi. On faisait tous 1m85 et plus de 100 barres. Le mec, il arrive et il se met au milieu en disant « Arrête de te chauffer avec ta pute, t'as été nul ce soir. Ben, » désolé, ouais, le coup de boule est parti. Mais sur les réseaux sociaux, tu ne l'as pas, ça. Et puis, dès que tu commences à répondre, après, derrière, c'est un espèce d'effet boule de neige. Donc, il y a un moment, et c'est la maturité qui t'amène à prendre un peu de recul là-dessus. Mais oui, l'importance de la prévention, là aussi, sur les réseaux sociaux, parce que et on l'a vécu, Arnaud, quand on invite les mecs au fur et à mesure, tu passes toujours par l'attaché de presse. Et encore merci à Pauline de nous avoir permis d'avoir Christopher, mais tu passes aussi par les attachés de presse qui disent « Ouais, mais il faut faire gaffe au sujet que vous allez traiter parce que derrière, nous, on a les réseaux sociaux, on a ci, on a ça, et c'est un truc en plus aujourd'hui. Donc, cette image-là, il faut aussi la… » Et c'est comme c'est nouveau, bah, tu te retrouves, comme on dit, ça peut être vite fait de te retrouver, c'est la cour des miracles avec des abrutis qui se permettent de dire tout et n'importe quoi.
Alors justement, on parlait un peu de mécontentement alors à travers les réseaux sociaux. On n'ira pas jusqu'à dire qu'il a été finalement courageux, ce jeune homme à Pau qui a pris le coup de tête par Raph, mais au moins il ne s'est pas caché derrière un écran. À Toulon, comment ça se passe un petit peu, Christopher, parce que ces dernières semaines ont été un petit peu compliquées, il y a eu un entraîneur qui a été évincé, il y a eu des résultats un peu en délicatesse, on va dire, en tout cas Toulon n'était pas, semble-t-il, à sa juste place, il y a eu beaucoup de mécontentement de la part des supporters. Comment toi tu l'as vécu justement?
Alors moi, par rapport à ça, j'ai eu plein de messages dus à mon témoignage sur la dépression et tout. Il y a plein de personnes qui m'ont évoqué le fait que ben, c'était bien que je le mette en lumière, parce que pour eux, ils trouvaient que c'était important. J'ai même des personnes dans le milieu du travail, en règle générale, que ce soit au quotidien, derrière un ordinateur ou dans les contre-performances, que ce soit à travers, je sais pas moi, des objectifs prévisionnels. Et les gens, ils nous expliquaient que, enfin, ils m'ont envoyé des messages sur les réseaux sociaux en me disant, ben, c'est bien que tu me mettes en lumière parce qu'il n'y a pas que dans le rugby que les dépressions se
Bien
montrent.
sûr.
Et c'est là où j'avais l'impression que je n'avais pas trop réalisé l'impact de l'article parce qu'il y a plein de personnes qui m'ont envoyé des messages comme ça. Et ça faisait plaisir. Et même pour revenir à la personne qui m'avait envoyé ce message, ben, son âme, hein, parce qu'il s'est fait charcler après, juste derrière, j'ai reçu des messages, il y a un mec qui disait qu'on va le retrouver le 11, j'ai arrêté, c'était pas ça le but, quoi. Mais ouais, pour revenir à tout ça, c'est fou que ça a pris cette ampleur, mais le timing, je pense qu'il est bon, parce que derrière, il y a une personne comme Mathieu qui en parle de ces sujets-là, qui parle ben, d'exigence, qui parle des réseaux sociaux, qui parle de plein de sujets qu'il faut aborder, qu'il faut surtout pas passer à côté. Et comme je te dis, c'est générationnel, je pense que c'est important d'en parler, comme tu dis.
Et quand ça joue mal, quand les résultats ne sont pas là et que les supporters toulonnais ne sont pas contents, comment tu vis ça? Parce qu'en plus, tu étais à l'écart du groupe, tu as repris contre le Stade français il y a quelques semaines maintenant, donc c'est difficile à vivre tout ça.
Bien sûr, c'était franchement c'était bah déjà l'appréhension des premières semaines d'entraînement, ça a été compliqué. Après, j'ai vu les matchs arriver les uns après les autres. On m'a dit, t'inquiète pas, tu vas jouer, tu vas jouer, tu vas jouer. J'ai dit, oh putain. J'avais complètement oublié l'exigence des supporters tournés, parce que quand même, tu parles d'une génération là, partout au club, c'est marqué champion d'Europe, champion de France. T'imagines bien que le moindre supporter que tu croises pour aller chercher ton pain le dimanche, si t'as fait un match de merde et que tu lances la baguette à la tronche. Caricature, hein, mais c'est pour rigoler. Mais j'ai eu la chance de jouer dans deux clubs français qui ont des supporters qui sont accrochés aux valeurs du club, et que ce soit le Stade Toulousain ou le RCT. Il faut savoir le digérer aussi, parce que quand tu es jeune joueur, je pense que tu joues dans un club comme Toulon, tu as un droit et un devoir, je pense. Et si tu te mouilles pas pour le maillot en arrivant sur le samedi, les supporters, ils te le font sentir. Mais c'est pas vraiment une histoire de performance, c'est vraiment une histoire d'attitude, tu vois, de comportement de guerrier, d'avoir toujours cette attitude de vouloir rien lâcher, parce qu'on est dans une situation où il ne faut rien lâcher. Et je t'avoue que oui, il a fallu se remettre rapidement dans le bain, parce que les supporters sont hyper exigeants, ils attendent beaucoup de toi. Ben, moi, je sais que quand j'arrivais bien sûr, j'ai beaucoup de supporters qui venaient me voir sur les OP d'après-match, qui me disaient, ouais, on t'attend, faut que tu reviennes et tout. J'ai dit, oui, de toute façon, je serai là. Mais voilà, ça faisait plaisir, mais d'un côté, tu as aussi cette petite micro-pression où tu sais que si tu te trompes, ben, tu vois, oula, ils vont pas l'oublier, tu vois, ils vont pas m'oublier. Mais à côté de ça, je veux mettre en lumière le fait que ben, on a des clubs de supporters aussi à tout le monde qui sont extraordinaires, qui, peu importe dans les bonnes comme dans les mauvaises performances, ils sont toujours là, tu vois, ils s'arrêtent jamais de nous envoyer des messages pour nous dire personnellement qu'il faut rien lâcher. Et je pense que voilà, encore une fois, c'est une question d'équilibre. Il faut pas prendre que le mauvais, parce qu'il y a comme dans les réseaux sociaux, tu as des clubs de supporters ou des supporters qui sont capables de venir te voir, te serrer la main, te dire c'est bien, c'est pas grave, lâche rien, et juste derrière te charcler sur les réseaux sociaux. Donc
Ouais,
il y a cette partie-là qu'il faut pas oublier non plus, quoi.
je pense qu'il ne faut pas oublier quand même l'histoire de Toulon, qui, au sortir de tous ses titres, comme tu le dis, a changé le président, quand même le maître qui a mis énormément de moyens aujourd'hui avec ce nouveau centre de formation, avec ce nouveau centre d'entraînement, pardon. Les supporters sont toujours là, mais il y a eu un autre casting qui a été fait. Et puis, les résultats qui ne sont pas arrivés au fur et à mesure, il a fallu passer. C'est comme passer après Max Gozzini au Stade français. C'est comment tu reprends les rênes d'un club qui a explosé. On n'est pas au Stade Toulousain où ça s'est fait un peu dans la durée, même s'il a connu aussi la crise et tu l'as vécu avec eux aussi, tu vois, au sortir d'une génération. Là, c'est un autre groupe qui est en train de se mettre en place. Il faut un peu plus de tolérance et puis de bien comprendre que ça ne se fait pas comme l'individu, la construction de l'individu, la construction d'un groupe et d'une équipe. Ça passe aussi par les moments salvateurs, oui, dans la défaite, mais aussi dans la victoire. Et ce week-end a dû faire du bien quand même parce que d'aller gagner quand même à l'extérieur, ça fait du bien en fait parce que c'est
Et puis
difficile
belle
de se
victoire.
construire. Très très belle victoire. Et difficile de se construire aussi dans la défaite, avec un public derrière tout aussi passionné que celle que le public du RCT. Toi qui reviens en fait au milieu de tout ce bordel, ouais. Mais c'est génial. C'est un vrai challenge aujourd'hui. Et donc ben voilà, une victoire qui peut en amener une autre. Et puis de se sortir la tête de la flotte tous ensemble avec ces leaders qu'on connaît, charismatiques, les Sergio Parissé, les Cébès et tout ça. Il faut arriver à reconstruire et à construire, en fait, et se créer une autre identité dans la lignée de ce qu'ont été les grands derrière, quoi. Donc, ça repart bien, alors, pour toi. Et pour toi et pour vous, en fait, là, oui, ça fait une victoire. Il y en a eu. Mais on a plus de facilité à se retrouver à la machine à café le lundi matin et puis de remettre le bleu de chauffe, quoi.
Bah disons que tu attaques la semaine avec la banane, quoi, c'est déjà pas
Ouais.
mal.
Qu'est-ce qu'on peut attendre, Christopher, d'ailleurs, du RCT sur cette fin de saison? Allez, petite dernière question d'actualité, mais qu'est-ce qu'on peut attendre du
Je vais
RCT?
faire l'envers, toi.
Non, non, qu'est-ce qu'on peut attendre du
Tu veux
RCT?
la faire l'envers, lui.
On va pas se mentir, on a quand même le sentiment que la relégation s'est éloignée et elle s'éloignera encore chaque semaine un peu plus. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Qu'est-ce qu'on peut attendre du côté du RCT?
Ben, d'enchaîner les bonnes performances jusqu'à la fin, on a quand même 4 à 5 gros morceaux à digérer ceux qui arrivent là. Donc, si on s'en sort bien de ce gros bloc de 5 matchs, je pense qu'on peut espérer déjà non seulement bien se maintenir, mais aller chercher une place un peu plus haute dans le classement. Et je pense que c'est l'exigence qu'il faut tendre. On ne peut pas se permettre de faire une performance comme celle de ce week-end et passer complètement à côté contre Montpellier.
C'est de la
Je pense
construction pour la saison prochaine aussi, peut-être un peu déjà.
Oui aussi, mais après voilà, c'est chacun a son avis sur la saison, hein, c'est sûr. Mais nous, en tant qu'acteur aujourd'hui, en tant qu'acteur du terrain, je pense qu'il faut quand même afficher des ambitions de manière correcte, quoi, de ne pas aller chercher quelque chose
Raisonnable.
raisonnable, parce qu'on
Ouais.
ne peut pas non plus croire qu'on va aller chercher une place de qualification tout de suite, mais il ne faut pas l'oublier non plus. Voilà, je pense que c'est un
Et
compte.
pour
C'est pas que.
conclure,
C'est pas de se
pardon,
trouver
Raph.
des excuses. Non, non, je t'en prie, t'en prie. C'est pas de se trouver des excuses qu'il faut pas oublier quand même qu'en milieu de saison, Fabrice Colazo a été remercié, un nouvel entraîneur aussi est arrivé, des internationaux qui sont partis, qui sont revenus,
Patrice.
l'arrivée de Colby dont on attend
Patrice
énormément.
Colazo, ouais.
J'ai dit qui?
Fabrice, mais c'est pas
Fabrice.
grave.
Tu
Bah,
parlais
son
de
cousin,
Fabrice
c'est son cousin,
Sandro.
sûrement. Ouais. J'étais avec Coco en plus ce week-end, on est partis ensemble en Écosse. Bah ouais, mais c'est ma boulette, les gars. Je vous l'ai déjà dit, hein, Pierre Avalan qui me dit, putain, pendant 20 ans, tu ne savais pas contre qui tu jouais. Et puis tu vas nous parler de rugby chaque semaine. Bah, il faut s'y attendre à ce qu'il y ait des petites erreurs, des petites coquilles. Ce qu'on appelle dans le rugby les fameuses petites scories. C'est le truc qui sort à la mode là. Avec ce mot-là. Et puis il y a l'autre mot aussi, le mot appétence. Tu vois, aujourd'hui, c'est de l'appétence.
La
Ce terme-là, sans déconner. Bon,
Bon,
j'ai fait une
allez,
erreur, mais oui, tous ces
juste pour
changements, en fait,
conclure.
font que. Oui, je t'en prie, vas-y.
Voilà. Non, juste pour conclure, c'est la question à 10 000. Puisqu'on parle de la saison prochaine, Christopher, ton avenir n'est pas scellé. Tu es en fin de contrat avec le RCT. Est-ce que tu sais un peu plus de quoi ton avenir sera fait et quel est ton avenir rêvé finalement?
Surprise, surprise.
Surprise, surprise.
Ah, monsieur le maître, gardez-le, c'est un bon mec. En plus, et voilà, il revient avec une vraie maturité. Voilà, ce petit message à faire passer aux dirigeants et aux supporters. Franchement, voilà, je parle à la place des autres, mais allez, repart pour un tour. Allez, au
On
RCT.
en saura un peu plus bientôt, donc Christopher, c'est ça?
Ouais, moi ce que j'attends, c'est juste qu'il nous paye l'amende qu'il nous doit, quoi, c'est tout.
Tu parles de Raph,
Ah, ok. Écoute, je devrais venir sur l'arabe dans pas longtemps. Je te
hein?
promets, et je te promets que je t'envoie un texto. On se fera un petit selfie, on le mettra justement sur les réseaux et dans Poulain sur les prochaines émissions. Je viendrai boire une petite bière avec toi parce que franchement, après 9 ans, alors c'est bien beau de se voir à travers une caméra, mais juste te trinquer une petite bière ou une grenadine si tu es en entraînement, tu vois. Je viendrai faire un tour et venir te saluer et saluer aussi Baptiste qui était d'ailleurs, qui faisait
Sûr,
partie de ta
t'inquiète pas,
génération.
c'est avec grand plaisir. Avec grand plaisir.
On le
Mais
fera. Peut-être bouffer du poulet et du riz. Hein. Moi, ça me va bien.
pourquoi pas, peut-être,
Une
hein?
tradition. Je vais me greffer. Allez.
Messieurs, merci beaucoup pour ces échanges qui ont été riches. On est désolé,
Ah,
hein,
c'est top.
Christopher, on a été un petit peu bavard, donc on a été un peu plus long
Non,
que
ça va,
prévu.
t'inquiète pas.
Un grand merci pour ta disponibilité. On souhaite évidemment le meilleur et puis on va suivre ton actualité ces prochaines semaines puisque tu nous as annoncé une surprise. Donc on va suivre ça avec beaucoup, beaucoup d'attention. Raph, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure.
Avec grand plaisir. Ça tombe, il va nous annoncer qu'il va signer à Marcq-en-Barœul. Et ça, je trouverai absolument génial. Le retour aux sources. Non, non, mais
Après juste.
Christopher, voilà, tu en as encore sous le pied. Donc garde, quand tu auras 37 piges, tu as encore 10 ans devant toi. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Christopher. Merci, Arnaud, parce que c'est une émission qui me tenait vraiment, vraiment, vraiment à cœur. Donc voilà, c'est des sujets qu'il faut mettre en lumière, même si c'est tabou. Merci de l'avoir fait dans le middle, Christopher. Merci de l'avoir fait dans Poulain Flûte. Et on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, avec un autre invité tout aussi riche. Et très très bonne fin de saison à toi. Merci beaucoup,
Merci
vraiment.
beaucoup. Ciao. Prenez soin de vous.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.